France Musique. Musicopolis. Charles l'Amoureux, la passion de Wagner. Parfois, une simple phrase bien tournée peut nous donner davantage à voir qu'une photo ou une vidéo. Écoutez par exemple comment un chroniqueur décrit Charles l'Amoureux en 1887. Un boulet de canon sur un obus. Tel est, au physique, le portrait du Bordelais, rond, chauve et court sur pattes, qui vient de jeter 300 000 francs à l'eau pour doter la patrie française du génie de Richard Wagner. La phrase que je vous ai lue date de 1887, au lendemain de la première et unique représentation de Lohengrin de Richard Wagner à Paris, à l'Eden Théâtre, sous la direction de Charles l'Amoureux. L'Amoureux-Wagner, un tandem qui a duré pendant près de 20 ans et qui a fait énormément pour faire découvrir la musique du compositeur allemand au public français. À ce titre, la plus grande réalisation du chef d'orchestre a sans doute été de monter à Paris Tristan et Isolde en création française fin octobre 1899. Ce sera la conclusion d'une vie dévouée à la musique, puisqu'il meurt à peine 2 mois plus tard. La critique est unanime après la première de Tristan et Isolde de Wagner sous la direction de Charles l'Amoureux fin octobre 1899. La représentation a été triomphale. Les artistes remarquables en resteront profondément émus. Ils ont fait vivre devant le public d'une vie idéale et réelle l'une des plus obsédantes fictions dramatiques qui furent jamais. Tout le monde s'accorde aussi sur l'excellence des chanteurs, Madame Litvine en Isolde au premier chef. Et par-dessus tout, comme le dit le Gaulois, l'orchestre de Monsieur l'Amoureux s'est montré incomparable. Monsieur l'Amoureux a droit à nos sincères acclamations. Quelle splendide soirée d'art sa libre initiative vient de nous offrir. Pas facile de se faire une idée de la manière dont un chef dirigeait lorsqu'on ne dispose d'aucun enregistrement. Cependant, dans le cas de Charles l'Amoureux, on peut se faire une idée au moins du résultat ressenti par les critiques parues au fur et à mesure du déroulement de sa carrière. Elles convergent en fait. Tout le monde loue son exigence, sa précision, sa minutie, son souci de perfection, tout en lui reprochant ce qui peut paraître l'envers de la médaille, à savoir une certaine raideur, froideur, sécheresse même parfois. Néanmoins, pour sa dernière réalisation, la création française de Tristan et Isolde de Wagner, il semble qu'il soit allé au-delà de ses limites. Dans l'article qu'il lui consacre le 22 décembre 1899, au lendemain de sa mort, son collègue Alfred Bruno écrit que ce jour-là est apparu un l'amoureux nouveau et en quelque sorte transfiguré. Il ajoute « Certains lui reprochaient sa précision exagérée, son souci du détail, l'accusaient d'impassibilité, le mettaient au défi de conduire avec l'ardeur nécessaire l'exécution de l'œuvre d'emportement, de passion, de flamme et de jeunesse. » À cela, il donna un éclatant démenti. Il étonna même ses défenseurs, ses admirateurs les plus convaincus. Il se surpassa et il n'y eut qu'une voix pour déclarer que nulle part la sublime partition n'avait encore vécu d'une telle vie frémissante. Si Charles Lamoureux, à la toute fin de sa carrière, arrive à l'apogée de son art, c'est qu'il est animé d'une volonté farouche de défendre Wagner, quoi qu'il lui en coûte, une force propre à lui, affirme un témoin, qui, l'ayant toujours empêché d'être maîtrisé, l'a conduit à dominer. Parce que oui, Lamoureux n'est pas un chef du genre conciliant et aimable. Il dirige d'une main de fer dans un gant de fer. Il impose sa volonté à tout le monde. Et lorsqu'il est au pupitre pour répéter, il est intraitable et même insupportable. Certains musiciens en font les frais. On dit qu'il a proposé un duel au revolver à un tromboniste parce que les cuivres jouaient faux. Mais en dehors des répétitions, il peut être très gai et il a même plaisir à danser le fameux quadrille de Tristan de Chabrier. Maintenant que vous avez une idée du caractère de Charles Lamoureux, Revenons sur sa carrière. Né à Bordeaux, c'est là qu'il commence ses études de violon, qu'il va poursuivre au Conservatoire de Paris. Premier prix à 20 ans, il complète sa formation par des cours d'harmonie, de contrepoint et de composition pour être vraiment à l'aise avec les partitions des maîtres. Il entre comme violoniste au théâtre du gymnase, puis à l'opéra. Il joue également dans l'orchestre pour jeunes musiciens, formé par Jules Padeloup, et avec la Société des concerts du Conservatoire. Mais il veut faire entendre d'autres sortes de musique. Il crée les séances populaires de musique de chambre, avec Édouard Colonne. Ils font entendre beaucoup de musique nouvelle et inconnue. L'Amoureux fonde ensuite un quatuor, qui va s'élargir pour devenir un orchestre de chambre, pour donner des concertos et des cantates de Bach. Devenu riche par son mariage avec une héritière du docteur Pierre, inventeur d'une eau dentifrice dont les ventes ne se démentent pas, il peut monter des oratorios de grande dimension, comme le font les Allemands et les Anglais qu'il a longuement visités. Après avoir monté avec succès et à ses frais le Messie de Handel et la Passion selon saint Matthieu de Bach, en 1874, à 40 ans, Charles Lamoureux fonde la Société française de l'harmonie sacrée. Il va donner avec elle encore de grandes œuvres de Handel, mais aussi des œuvres nouvelles, Galia de Gounod, Ève de Massenet. Il est obligé d'arrêter pour des raisons financières, mais au moins, il s'est fait remarquer comme chef d'orchestre et organisateur. Il est chef à l'Opéra Comique. Au bout de 6 mois, il démissionne, pas assez libre. Il est ensuite chef à l'Opéra. La troisième année, il démissionne, pas assez libre. Il demande au ministère la restauration du théâtre lyrique assortie d'une subvention pour créer un opéra populaire. Refusé. Il est temps qu'il se lance dans une entreprise d'importance. C'est avec la 7e symphonie de Beethoven que le dimanche 23 octobre 1881, Charles Lamoureux ouvre la première matinée dominicale de sa nouvelle Société des nouveaux concerts, appelée aussi Concert Lamoureux. Son entreprise n'est pas la première du genre à voir le jour à Paris, loin de là. Il y a déjà sur la place, sur le marché pourrait-on dire, la Société des concerts du Conservatoire, les concerts populaires de Jules Padeloup et les concerts du Châtelet d'Édouard Colonne. Chacun ayant plus ou moins sa spécialité, il faut trouver son originalité. Pour l'amoureux, ce sera Wagner. C'est seulement à son troisième concert que le nouvel orchestre de Charles Lamoureux met à son programme une œuvre de Wagner. Le Ménestrel commente. Le concert se terminait par l'ouverture de Rienzi, œuvre de la première manière de Wagner, qui n'en est pas moins une page puissante et vigoureuse. L'orchestre de M. Lamoureux l'a joué avec une fougue et une vigueur étonnantes. C'était absolument superbe. Aussi, toute la salle s'est-elle levée d'un élan pour saluer d'applaudissements enthousiastes l'habile et courageux fondateur des nouveaux concerts. À partir du mois de novembre 1881, les nouveaux concerts de Charles Lamoureux vont proposer des extraits d'opéra de Wagner à peu près tous les dimanches. Sauf lorsque, parfois, sont programmées de longues œuvres comme la 9e symphonie de Beethoven ou la Damnation de Faust de Berlioz. Lamoureux diversifie ses extraits de Wagner. D'abord les ouvertures des premiers opéras, Lohengrin, Tannhäuser, Le vaisseau fantôme. Puis il pousse jusqu'au maître chanteur. Il glisse quelques pages de la tétralogie, de Tristan et Isolde. Il se risque enfin à proposer des actes entiers, de Lohengrin et de Tristan. Peu à peu, le public parisien, qui avait violemment refusé Tannhäuser en 1861, s'accoutume au langage wagnérien. Mais pour l'amoureux, qui a fait le voyage de Bayreuth, l'opéra au concert est un pis-aller. Ce qu'il voudrait absolument, c'est monter les Wagner en version scénique, avec une mise en scène à la Bayreuth, qui leur rende enfin totalement justice. En 1887, enfin, Charles l'Amoureux aura les moyens et la possibilité de monter Lohengrin de Wagner à l'Eden Théâtre. 46 répétitions de chœur, 6 ensembles, 20 répétitions sur scène avec piano, 5 avec orchestre et 2 générales. Lorsqu'un incident à la frontière alsacienne l'oblige à ajourner la première. Il réussit enfin à donner une représentation, mais quelques casseurs ultra-nationalistes font du tapage et l'Amoureux renonce aux suivantes, perdant ainsi beaucoup d'argent. Mais l'idée est passée et l'Opéra de Paris montre à l'œuvre à nouveau en 1891 sous la direction de l'Amoureux. Après cette première victoire, le chef continuera à se battre pour Wagner jusqu'à sa mort le 21 décembre 1899, quelques jours seulement après la dernière des mémorables représentations de Tristan et Isolde. Fin de Tristan et Isolde et mort d'Isolde de Richard Wagner, Margaret Price avec la Staatskapelle de Dresde dirigée par Carlos Kleiber. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max James pour la réalisation, Claude Nior pour le mixage et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.